Nous voulons écouter la parole de Dieu. On va chanter « Parle-moi, parle-moi ». C'est là ma prière. Parle-moi, parle-moi. Parle-moi, parle-moi. C'est là ma prière. Je t'écoute, ô Père. Prêt à t'obéir. Elle va se présenter et écouter. Écoutez-la. Merci.
Merci. Shalom. Nous disons merci au Seigneur pour la grâce et l'opportunité qu'il nous accorde ce matin, que nous puissions nous retrouver dans sa présence. J'ai dit merci au Seigneur de m'avoir choisi pour être l'instrument par lequel il aimerait passer à ce jour pour parler à son peuple. C'est un privilège, mais c'est aussi une grande responsabilité de me tenir devant vous pour pouvoir parler de la part de Dieu. J'ai dit merci aux serviteurs de Dieu de cette église, merci pasteur, pour la marque de confiance et de me confier cette chair, c'est votre bureau. Tout peut se passer ici par un seul mot, peut détruire cette église et c'est une grande responsabilité. Merci pour le pasteur et pour tous les conseils de l'Église, pour cette confiance qu'ils ont placée en moi. Et je peux me tenir ici. J'ai dit merci au comité des femmes qui m'ont choisi. Peut-être ce sont elles qui ont proposé aux serviteurs de Dieu. Merci au comité des femmes et à toutes les femmes. Je ne manquerai pas de dire merci à mon coach, mon mari, mon pasteur, qui m'encadre, que je sois capable de servir le Seigneur. Nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci pour la grâce et les privilèges que tu nous as accordés. Tu as réuni ces peuples, Seigneur, pour pouvoir parler à leur cœur. Seigneur, nous sommes là, nos cœurs disposés comme une terre qui attend la semence. Dépose cette semence dans le cœur de chacun de nous. Dis ce que tu veux nous dire, Seigneur, que tu croisses et que je diminue. Atteins tes objectifs dans la vie de chacun de nous et dans cette assemblée, Seigneur. Manifeste ta puissance au milieu de nous. Nous avons besoin de toi. Cher Saint-Esprit, sois à l'œuvre. Au nom de Jésus-Christ, amen. Pour une petite présentation, je suis Rosette Kavira. Je suis l'épouse du pasteur Stone Kasereka de l'église Arche de l'Alliance Goma. Alléluia. Je pense que cela suffit. Je suis mère de plusieurs. Alors, il m'a été demandé de partager la parole de Dieu au cours de cette semaine qui est définie comme la semaine de la femme. Et notre thème, notre sujet, le thème principal, c'est ce que Dieu attend de la femme. Ce que Dieu attend de la femme. Bien-aimés, ce n'est pas seulement que le Seigneur attend quelque chose de la femme, mais le Seigneur attend quelque chose de chacun de nous, hommes et femmes. Lorsque Dieu nous a créés, il a attaché à l'existence de chacun de nous une mission. Et cette mission, nous devons l'accomplir de notre vivant. Ce n'est pas lorsque nous serons dans la tombe. Il y a beaucoup de gens qui meurent sans accomplir ce que le Seigneur attend d'eux. Chaque personne a une mission puisque chaque personne est venue sur la terre avec quelque chose. Dieu ne peut jamais nous demander de faire quelque chose que nous ne serons pas à mesure de faire. Chacun de nous, chaque enfant, Quand il vient au monde, il vient avec un capital initial. Chaque personne vient avec un capital initial. Et Dieu, quand il nous donne ce capital initial, il est juste, puisqu'il nous donne de la même façon. Mais c'est à chacun de nous d'exploiter ce que le Seigneur lui a donné, puisqu'il attend de nous des résultats. Alléluia. Si nous voyons la parole de Dieu dans Jérémie, chapitre 1, le verset 4, nous allons voir que Dieu, quand il envoie chaque personne dans le monde, il définit déjà ce que la personne viendra faire. Mais chaque fois qu'on s'éloigne de Dieu, quand on est en dehors de la volonté de Dieu, il est difficile de comprendre ce que Dieu attend de nous. Si nous lisons Jérémie chapitre 1, le verset 4, la parole de Dieu nous dit, « Avant que je t'eusse formé dans les seins de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. » Dieu s'adresse à Jérémie et lui dit, « Je te connaissais avant que tu sois formé dans les seins de ta mère. Je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. » Chacun de nous est consacré à faire quelque chose. Chacun de nous est établi à quelque chose. Et Dieu attend que nous puissions accomplir la chose à laquelle il nous a établi. L'autre exemple, c'est l'exemple de Samson lorsque nous lisons Juges chapitre 13. Si nous voyons à partir du verset 1, nous allons lire l'histoire de Samson. Avant que Samson ne soit conçu dans les seins de sa mère, l'ange est venu auprès de sa mère pour lui dire, une femme qui a passé beaucoup d'états dans la stérilité, Dieu lui a dit, tu auras un fils. Et ce fils-là sera nazaréen. C'est lui qui commencera à délivrer le peuple d'Israël. Une mission est définie avant qu'on soit conçu. Chacun de nous a une mission et Dieu attend de toi quelque chose. Est-ce que tu peux m'aider à prêcher et dire à celui qui est à côté de toi, Dieu attend de toi quelque chose. Alléluia. Bien-aimé, c'est seulement lorsque nous sommes dans la volonté de Dieu, lorsque nous entrons dans les plans de Dieu, c'est-à-dire lorsque nous entrons en relation avec Dieu, que nous pouvons comprendre ce que Dieu attend de nous, c'est-à-dire la mission que Dieu a définie pour nous, ce que nous devons accomplir. Alors, comme nous sommes dans la semaine de la femme, nous allons beaucoup parler de ce que Dieu attend de la femme. Alléluia. Ce que Dieu attend de la femme. C'est la raison pour laquelle j'ai intitulé notre sous-thème « Femme, Dieu attend de toi les résultats. » Dieu attend de toi les résultats. Nous allons prendre trois textes que nous allons lire. Le premier texte, c'est dans Genèse chapitre 2, le verset 18, un verset que nous connaissons très bien. La parole de Dieu nous dit, « L'Éternel, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Dieu vit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide. Une aide qui a une particularité semblable à lui. Alléluia. Le deuxième texte, c'est dans Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, verset 23 jusqu'à verset 25. La Bible nous dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Sachez que vous recevrez du Seigneur l'héritage et pour récompense. Servez Christ, le Seigneur, car celui qui agit injustement recevra selon son injustice et il n'y a point exception de personne. Et le troisième texte, c'est 1 Corinthiens, chapitre 3, et verset 9. Nous allons lire. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes les champs de Dieu, les fils du Fils de Dieu. Dans ce passage, ce qui nous intéresse plus, c'est la partie A. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Dieu a créé la femme, il avait un but bien précis. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. C'est-à-dire que lorsque Dieu conçoit la femme dans son esprit, il conçoit la mission de la femme. Il ne dit pas, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une femme. Il dit, je lui ferai une aide. L'aide, c'est la mission même de la femme. Avant que la femme vienne au monde, il y a déjà une mission qui est définie pour elle. Elle n'a pas besoin de se poser la question pour savoir qu'est-ce que je viens faire au monde, qu'est-ce que je dois faire. En tant que femme, si jusqu'à présent tu continues à te poser la question de qu'est-ce que tu dois faire, c'est-à-dire que tu n'as pas compris pourquoi tu es venue. Puisque Dieu avait déjà donné le travail, nous sommes déjà engagés avant que nous soyons créés. Une aide. Notre mission en tant que femme n'a pas été définie par un homme. Ce n'est pas Adam qui a dit à Dieu, fais-moi une aide. C'est Dieu. C'est Dieu qui a défini ta mission. Donc là où le Seigneur t'a placé en tant qu'aide, mets dans ta tête que je ne suis pas ici à cause de cet homme. Je suis ici parce que c'est Dieu qui m'a mis ici, qui m'a placé ici pour une mission. Bien-aimée, chère maman, tu n'es pas dans ton foyer puisqu'on a donné la dot chez tes parents. Tu es dans ce foyer parce que avant ton existence, Dieu avait déjà défini ta mission. Là où tu te retrouves maintenant, c'est ton lieu d'affectation. Alléluia! Il n'y a pas de mission sans affectation. Il n'y a pas de mission sans affectation. On peut dire, je te donne un travail, mais si on ne t'a pas affecté, qu'est-ce que tu vas faire? Là où nous nous retrouvons, si c'est dans la cuisine, c'est là que le Seigneur nous a affectés. Et Colossiens 3, 23 nous dit, faisons comme si ce que nous faisons là-bas, nous le faisons pour Dieu et non pour les hommes. Parce que dans notre texte de Corinthiens, nous sommes ouvriers avec Dieu. C'est ça que Dieu attend de nous. Bien-aimé, si tu comprends cela, tu ne regretteras jamais d'être femme. Tu ne regretteras jamais de rester à la cuisine, même si tu n'as pas encore le travail. Tu ne regretteras jamais de rester derrière les assiettes que tu fais. C'est ça ton affectation pour le moment. Lorsque le Seigneur voudra, il pourra te réaffecter ailleurs. Alléluia. Bien-aimé, lorsque nous ignorons qu'il y a quelqu'un à qui nous devons rendre compte, nous faisons les choses comme par négligence. Nous les faisons avec négligence puisque nous pensons que nous les faisons pour les hommes. Quand on te demande de préparer pour les enfants, tu les fais avec tu penses que tu les fais parce que tu es leur maman. Nous les faisons puisque c'est une mission. Dieu nous a affectés à ce travail-là. Parfois, nous faisons à notre manière, sans tenir compte des règles fixées par celui qui nous a confié la mission. Bien-aimés, lorsqu'on nous confie la mission, il y a des règles fixées par celui qui nous engage. Il nous donne la manière dont nous devons faire le travail qu'il nous demande de faire. Et c'est ce que nous avons vu dans Colossiens. Faisons-les comme si nous les faisons pour Dieu. C'est ce que le Seigneur nous demande. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Il y a une récompense à tout ce que nous faisons. Servons Christ le Seigneur. Lorsque nous faisons ce que nous faisons en tant que femme, nous servons Christ. Nous ne servons pas les maris, nous ne servons pas les enfants, nous ne servons pas la belle-mère. Mais nous servons Christ. À ta quête auprès de nos maris, à ta épouse, à ta commerçante, à ta chef de bureau, secrétaire, partout où le Seigneur nous a placés, ce que nous faisons, faisons-le de bon cœur. Faisons-le de bon cœur, comme si nous le faisons pour le Seigneur. La Bible dit que nous recevrons une récompense pour tout ce que nous faisons. Si nous agissons injustement, nous recevrons selon notre injustice. Le Seigneur t'a affecté comme belle-mère. Qu'est-ce que tu fais? Il a placé cette fille à côté de toi et il connaît que cette fille-là, elle est impossible. Il sait qu'elle est mal éduquée. Il sait. Il savait. Mais comment tu te comportes dans cette affectation-là? Alléluia. La plupart des fois, nous pensons que la récompense, c'est seulement pour ceux qui servent dans les ministères, dans tout ce que nous faisons. Le Seigneur dit qu'il nous récompensera. La femme, à ta quête, elle a différents rôles à jouer. Et ces différents rôles à jouer sont englobés dans sa mission d'aide. Il y a beaucoup de choses que la femme peut faire, mais je vais parler juste des 5 rôles que la femme fait. Et elle doit comprendre que ce sont des grandes responsabilités. Et je peux même dire que dans ses responsabilités, elle est irremplaçable. Alléluia. Le premier rôle que la femme joue, c'est cette femme-là. Dans Genèse chapitre 2, le verset 18 que nous avons lu, la Bible dit, « Elle est celle qui, lorsqu'elle est absente, les choses ne sont pas bonnes. » Puisque Dieu dit, « Il n'est pas bon que la femme soit absente. » À d'autres termes, pasteur, il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est-à-dire, il n'est pas bon que la femme soit absente. Bien-aimé, quand la femme n'est pas présente, les choses ne sont pas bonnes. Imagine un monde sans femme. Ça va ressembler à quoi? Est-ce que vous voyez les embouteillages sur la route? C'est créé par qui? Mais peut-être quand elle pense que, bon, d'Afrika Kunyumba Sangapi, dégageons la route. Bibiangwa Tassirik. Alléluia. Bien-aimé, un homme peut faire de grandes réalisations. Avant que Dieu crée Ève, Adam avait déjà fait de grandes réalisations. Imaginez donner les noms à tous les animaux. C'est grand. Mais malgré ça, Dieu trouve qu'il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Et dans notre vie d'aujourd'hui, il n'est pas bon. Il n'est pas toujours bon. L'homme peut faire de grandes réalisations. Il peut construire des maisons. Tu peux construire une belle maison. Tu mets tout ce qu'il faut dans cette maison. S'il n'y a pas de femme, dis-moi. Il va habiter dedans. Ça ne fait pas beau vivre. Même s'il y a toute la nourriture du monde, tu n'auras pas l'appétit tant que tu es seul. Même si vous mettez 10 hommes dans cette maison-là, il ne fera pas bon. Il y a certaines visites que vous n'aurez pas. Il y a certaines visites que vous n'aurez pas. C'est ce qui s'est dit. Et même quand un homme, il a déjà fait beaucoup de réalisations,
Il peut évoluer dans les ministères, il peut évoluer dans les commerces, il peut évoluer dans tout ce qu'il fait. Il y a toujours une question qui revient partout où il peut passer. Pourquoi cette question passe? C'est qu'il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Bien-aimée, chère femme, ta présence compte beaucoup. Si toi, tu n'es pas présente, il n'est pas bon. Alors, la question à se poser, est-ce que depuis que je suis venue, y a-t-il une différence? Puisqu'il ne suffit pas de venir. Ce qui est important, c'est que lorsque vous arrivez, avant vous et pendant vous, il faut que ça soit différent. Oui. Puisqu'il y a certaines femmes, l'homme était bon, était bien quand il n'était pas encore marié. Mais lorsque la femme est entrée dans sa vie, il est devenu malheureux. Les gens peuvent commencer à dire, « Tu le crois, tu n'es pas qu'un d'attembélé à quoi que mes débuts, les bibliens l'efficaca. » Quel changement positif tu as amené depuis que tu es là? Depuis que tu es entré dans cette famille, depuis que tu es entré dans la vie de cet homme, quel plus, quelle chose, quand tu peux faire ton évaluation? Plus, ni ninji mongezek. En principe, il ne doit pas y avoir un moins. Il faut qu'il y ait un plus. Quand on commerce ça, à l'écouer, quand on a capital à 100 dollars, il faut n'en prendre que 300. Alléluia. Il faut que les choses s'améliorent. Lorsque Ève est venue dans la vie d'Adam, c'est vrai, la femme l'a entraînée dans les péchés. Mais Dieu avait déjà trouvé que lorsque Adam était seul, ce n'était pas bon. La question s'est posée. Nous, en tant que femmes, est-ce que ma présence fait qu'il soit bon? Ou bien c'est moi qui suis à la base des discordes dans cette famille, des divisions dans cette famille? Ma présence a chassé certains visiteurs qui pouvaient venir même chez mon mari. Quand il était célibataire, ils ne viennent plus. Ils ne viennent plus. Pourquoi? Pourquoi ils ne viennent plus? Dieu attend de toi que lorsque tu arrives quelque part, que lorsque tu es engagé dans une entreprise, que lorsque tu es entré dans ce marché, que lorsque tu es entré dans la vie de cet homme, jeune fille, que lorsque ce garçon est venu t'épouser, que tout devienne bon. Puisque nous voyons même dans Genèse chapitre 1er, 5 fois, Dieu vit que les choses étaient bonnes. Après de grandes réalisations, il crée, il dit à la fin, c'est bon. Il crée et il voit que c'est bon. Mais lorsque la femme était là, le langage a changé. C'était très bon. Alléluia. Bien-aimées, chères femmes, faisons tout pour que là où nous sommes, tout change au positif. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Par rapport à cette responsabilité, la Bible nous dit dans Proverbes chapitre 22, le verset 14, « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. » Celui qui trouve une femme trouve le bonheur, puisque tout est bon, tout va être bon. Puisque maman bonheur est venue, je m'étonne quand on dit papa bonheur. En principe, on doit dire maman bonheur, puisque celui qui me trouve, trouve le bonheur. Et puis, je vais paraphraser ces versets. Vous savez que moi, je n'aime pas seulement les limiter dans les couples. J'aime l'étendre. On n'a pas dit celui qui trouve une épouse. On a dit celui qui trouve une femme. Alléluia. La jeune fille est-elle femme? Jeune fille, vous êtes des femmes? Ok. La belle-mère, est-ce que c'est une femme? La belle-sœur de Maï? Ni femme, hein? C'est-à-dire, celui qui trouve une femme comme belle-mère trouve le bonheur. Celui qui trouve une femme comme tante, tata moi-ci, trouve le bonheur. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Attaque tata moi-ci. Tes neveux et tes nièces, est-ce qu'ils peuvent dire que comme nous avons trouvé une femme comme tante, elle est un bonheur pour nous? Belle-maman, cette belle fille-là, comme toi tu es une femme dans sa vie, elle t'a trouvé. Est-ce qu'elle a trouvé le bonheur? dans toutes ces casquettes-là que nous portons en tant que femmes, nous devons apporter le bonheur partout où nous nous trouvons. Alléluia! Est-ce que les femmes, vous pouvez acclamer les... Alléluia! La deuxième chose, le deuxième rôle de la femme est qu'elle est celle à qui a été, celle qui a été bénie au même titre que l'homme. Genèse chapitre 1, les versets 27 et 28, la Bible dit, « Dieu créa l'homme à son image, il les créa homme et femme, il les créa à son image. Et puis Dieu les bénit, et puis Dieu leur dit, leur, c'est le pluriel, Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. » Assujettissez et dominez. Il a dit cela à tous les deux. Donc c'est une mission qui est confiée et à l'homme et à la femme. Et Dieu attend les résultats de l'homme et de la femme. Soyez féconds. Multipliez. Il n'y a pas vous. Lisez bien la parole. Multipliez. Bien-aimés, c'est bien, nous avons multiplié sur les niveaux maternité, mais soyons féconds dans la tête. Notre cerveau, en tant que femme, doit produire des projets. Notre cerveau doit produire des entreprises, doit produire tout ce que l'homme peut produire, puisqu'il nous a tous bénis de la même bénédiction. Soyons féconds, multiplions ce que nous faisons, dominons par ce que nous produisons. Alléluia. Mais ce verset est compris d'une autre manière par nous les femmes. Je ne sais pas quelle mouche nous pique quand l'argent entre dans nos sacs. En fait, nous les femmes, je ne sais pas si nous lisons même la Bible, puisque chaque fois qu'une femme commence à toucher beaucoup plus d'argent que l'homme, il y a un démon qui entre directement. Surtout si l'homme est au chômage. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de foyers qui se sont disloqués puisque seulement la femme a essayé de mettre en pratique cet ordre. Bien aimé, c'est un ordre, hein? Soyez, c'est un impératif, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Nous les femmes, nous avons aussi ce devoir de le faire. Nous ne devons pas voir comme si et considérer comme si c'est quelque chose d'extraordinaire lorsque nous avons l'argent. C'est normal, c'est normal. Dieu a dit ça. Nous devons avoir l'argent. Mais lorsque tu as l'argent et que ton mari n'en a pas, qu'est-ce qui se passe? C'est mon argent. Toi, tu ne fais plus rien ici. Tu es devenu irresponsable. Bien-aimée, chère femme, lorsque les maris ont l'argent, jamais ils ne nous ont traités d'irresponsables. Pourquoi nous, seulement quand nous avons l'argent, nous les traitons d'irresponsables? Est-ce que cette bénédiction, Dieu a dit que c'est pour toi seul? Il a dit dominer, assujettissez, remplissez. Quand tu remplis, tu penses que tu vas les manger toi seul? Mais c'est pour toute la famille. Dieu est souverain, bien-aimé. Il déverse sa bénédiction où il veut. Et puis, de toutes les façons, quand on est marié, on est déjà devenu une seule chair. On n'a plus quatre bras, on n'a plus quatre jambes, on n'a plus de tête. On est devenu une seule. Une. Et quand l'argent vient, je ne sais pas. Comme la Bible dit que l'homme est le chef, c'est la tête. Et la femme, c'est le tronc, peut-être. L'argent, peut-être que ce n'est pas descendu si la tête s'est descendue entre les mains. Les mains sont où? Si les troncs. C'est le même corps. C'est le même corps, bien-aimé. Si tu as cette habitude-là de dénigrer ton mari, puisque tu as plus d'argent que lui, peut-être tu commences à demander même le divorce, puisque tu te dis c'est un irresponsable. Il n'a jamais été irresponsable. Il n'a jamais été. C'est Dieu qui a décidé de déverser l'argent sur les mains, qui sont sur les troncs. Reste à ta place. Dieu a établi l'ordre dans le couple. Il a dit l'homme est le chef. Alléluia. C'est Éphésiens chapitre 5, verset 22 qui le dit. Femme, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car l'homme est le chef de la femme. Même si tu domines, tu multiplies, tu sois fécond, sache que tu as ta place. L'argent ne vient pas remplacer ce que tu es. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Lorsque nous voulons servir Dieu, servons-le selon les normes qu'il a fixées. Et là, nous recevrons la récompense. Alléluia. Les maris aussi doivent comprendre que c'est normal que la femme ait l'argent. Puisque c'est ce qui aussi tue beaucoup de foyers. Les maris commencent à être complexés. Pourquoi tu es complexe? Vous êtes un. Il y a des hommes qui, je ne sais pas, ils sont comment. L'argent de la femme, attaï kwenga, puis autour d'une osa chakula. Aïe, autour d'une chakula, y a zienda ku projet. Ça, c'est quelle mentalité? Vous êtes un. Lorsque la femme peut réussir, peut avancer dans les affaires, dans les multiplier, dans l'assujettissement, bien-aimé, sache qu'elle est juste en train d'accomplir la parole de Dieu. Alléluia. Tu ne dois pas voir cela comme une menace. Ce n'est pas une menace. La Bible nous dit dans Genèse chapitre 16, verset, 3, verset 16, la partie B. La Bible dit, tes désirs se porteront vers ton mari, vers l'homme, mais il dominera sur toi. C'est ce que nous, nous avons pris seulement. Nous, les femmes, on a oublié la partie là de tu dois dominer, tu dois assujettir, tu dois faire cela. Et c'est comme ça que tu nous trouves, seulement nous avons baissé les bras puisque les désirs se porteront. Ce verset n'est pas venu annuler l'autre verset là. Ça se complète. C'est juste que Dieu est en train juste de nous montrer que toi, celui-ci, c'est ton chef. Et quand la Bible dit « il dominera sur toi », ce n'est pas nous écraser, non. Il dominera sur nous par le bien. Il va tellement nous faire du bien que nous serons obligés d'être soumis. Bien-aimés, chers maris, chers hommes, cette domination, ce n'est pas que vous devez nous écraser. Vous devez nous faire du bien. La Bible dit dans Éphésiens, aimez vos maris comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. S'est livré, c'est faire quoi? Il s'est sacrifié. Il s'est donné la mort pour sauver l'Église. Et c'est l'exemple que vous devez suivre. Atakom, il s'est livré. Vous devez nous faire du bien. Vous savez, j'aimerais peut-être expliquer cela par un exemple, puisque peut-être que vous êtes en train de vous poser la question. Je vais la dominer par les biens communs. Chacun de nous ici, n'est-ce pas qu'il a un téléphone? Hein? Si Akita c'est qu'il te vole ton téléphone ici, quand tu arrives à la maison, est-ce que tu vas même te rappeler de ce qu'on a prêché? Quand on se réveille, la première chose, téléphone. Avant de se coucher, la dernière chose, téléphone. Tu vas partout avec ton téléphone. Le fabricant du téléphone, est-ce qu'il ne t'a pas encore dominé? Le téléphone te fait du bien, n'est-ce pas? Est-ce qu'il ne t'a pas dominé? Est-ce que c'est lui qui te dit, prends ton téléphone et ne le laisse pas même à l'église quand il va, pars avec ton téléphone? Non, il nous a déjà dominé. Il nous a dominé par les biens. Puisque nous sommes devenus esclaves du téléphone. Les hommes, il y a des hommes qui ferment leur bureau à 15h puisqu'ils veulent seulement aller voir les matchs. Ils veulent aller voir les matchs. Je ne sais pas, je ne connais pas le nom des joueurs, si c'est Drogba, si c'est qui. Il nous a dominés. Pourquoi tu laisses ton travail? Pourquoi tu laisses ton travail? Pourquoi tu dors à minuit? Seulement avec son pied. Il nous a dominés. Il nous a dominés. Puisque nous voulons seulement regarder ces matchs-là. Il a tellement multiplié. Il a tellement assujetti. Et il a dominé. Alléluia. Et c'est ce que Dieu attend de nous, hommes et femmes. La troisième chose, elle est l'aide semblable. La femme, c'est l'unique aide semblable. L'unique. Nous pouvons chercher des domestiques, ils ne seront jamais semblables. Et aujourd'hui, avec le mouvement des LGBT, ils pensent qu'ils veulent nous remplacer, nous femmes. Ils ne pourront jamais nous remplacer puisque nous sommes irremplaçables. Nous sommes semblables. Un homme ne sera jamais semblable à un homme. Les hommes qui se disent, je ne peux pas épouser une femme, je vais épouser un homme comme moi. C'est l'unique femme. C'est la femme qui est l'aide semblable. Cet homme-là ne sera jamais semblable. Oh, moi, je vais épouser mon animal. Il ne sera jamais une aide semblable. Oh, moi, je vais fabriquer une poupée. Je vais commencer à utiliser les robots. Il ne sera jamais semblable. Seulement la femme. Elle est semblable et bien-aimée. Bien-aimée, en tant que femme, nous devons comprendre ces choses et savoir que Dieu attend de nous quelque chose. Il attend de nous un résultat dans toutes ces casquettes-là qu'il nous a données. La quatrième chose, la femme. Dans Genèse chapitre 3, le verset 15, Dieu a attaché la postérité à la femme. Dieu a dit, ta postérité écrasera la tête du serpent. L'homme était là à côté. Est-ce que la postérité vient seulement de la femme? Ça vient de Dieu. Mais Dieu attache la postérité à la femme. Et lorsque nous lisons la Bible et nous allons dans le Nouveau Testament, nous voyons l'accomplissement de cette promesse du salut du monde, le salut que Dieu avait préparé. Il a prophétisé ça dans ses passages bibliques, mais aussi la défaite qu'il allait subir à Satan. C'était au travers de la femme. Et nous avons vu que cela s'est accompli par Marie lorsqu'il a eu Jésus-Christ. Bien-aimés, parfois nous pensons que c'est seulement un privilège que Marie ait mis Jésus au monde. Mais cette femme-là, elle a eu beaucoup de choses à sacrifier. Elle a sacrifié sa virginité. Elle a sacrifié ses fiançailles. Elle a sacrifié la réputation de sa famille. Puisqu'en Israël, elle devait être lapidée. Mais elle a accepté d'endurer tout cela. Elle a payé le prix pour ça. Et le Seigneur a trouvé que c'est la femme qui est capable. Bien-aimée, chère femme, je le répète encore. Dieu ne te demandera jamais quelque chose que tu ne peux pas faire. S'il nous a confié cette responsabilité, il sait pourquoi. La femme porte la destinée des enfants. L'enfant fait 9 mois dans le ventre de sa maman. Toute l'humanité, la majorité, je peux dire 99%, nous passons à environ au moins 18 ans entre les mains de la femme. Nous, femmes, qu'est-ce que nous faisons pendant les 18 ans que Dieu nous confie l'enfant? Qu'est-ce que nous lui inculquons? Dieu nous dit, dans Proverbes chapitre 22, le verset 6, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. » Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Il nous donne tout cet état-là pour que nous puissions avoir l'état d'inculquer les valeurs de Dieu, afin que cette victoire que le Seigneur nous a donnée à Golgotha, nous puissions la pérenniser sur des générations, que nos enfants connaissent Dieu, qu'ils croient à Dieu. C'est la raison pour laquelle il nous laisse ses enfants pendant tous ces temps, pour que nous puissions leur montrer que nous avons déjà la victoire et qu'ils puissent marcher dans cette victoire-là. Dieu attend de nous que notre postérité puisse continuer à écraser
la tête du serpent.
Que nos enfants ne soient pas écrasés par les diables, dans la drogue, dans l'homosexualité, dans la masturbation, dans toute chose, dans toute forme de choses qui est en train de détruire leur vie. Dieu nous a confié la responsabilité. Et c'est la raison pour laquelle il a attaché la progéniture à la femme. Bien-aimée, je ne sais pas ce que tu fais avec toutes ces responsabilités. Est-ce que tu les fais comme si tu les fais pour Dieu? C'est Dieu qui nous a confié cette mission. La question à se poser. Bien-aimé, tu sais que tu ne peux pas montrer le chemin de ça à quelqu'un là où tu n'as pas été. Peut-être on a des difficultés parfois à le faire puisque nous-mêmes, nous ne sommes même pas encore dans le Seigneur. Et comment tu vas montrer la voie de Dieu à quelqu'un si toi-même, tu n'es pas encore dedans? Ne rate pas ces jours. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus. Et il te rendra capable de le faire, de communiquer ta foi. La Bible nous dit que Timothée, la foi qu'il avait, il l'avait récit de sa mère, qu'il avait récit de sa grand-mère. Ce que nous avons, ce que nous donnons. Si nous n'avons rien, nous n'aurons rien à donner à nos enfants, à cette progéniture qui est attachée à nous. Alors, que faire pour accomplir ce que Dieu attend de nous? Rentrer dans les plans de Dieu. Nous devons rentrer dans les plans de Dieu. C'est seulement dans les plans de Dieu que nous pouvons comprendre que nous avons une mission. Que nous pouvons comprendre la mission, si ça consiste à quoi. C'est la raison pour laquelle j'ai dit, si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, ne manque pas de le faire aujourd'hui. Il se tient à la porte de votre cœur, selon Apocalypse 3, 20, il frappe. Si quelqu'un attend sa voix et ouvre, il entrera. Bien-aimés, plusieurs fois nous avons attendu la voix du Seigneur en train de claquer à la porte de notre cœur, en train de frapper. Mais si nous n'ouvrons pas, il n'entrera pas. Jésus-Christ n'a jamais été un brigand ni un bandit pour entrer dans la porte qu'on n'a pas ouverte. Il faut lui ouvrir la porte de votre cœur. Et il va entrer. La deuxième chose, savoir ce que j'ai fait, que je l'ai fait pour Dieu. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour Dieu. Et si j'ai cette conscience-là, si j'ai cette conscience, la moindre chose que je peux faire, je vais la faire bien, puisque c'est Dieu qui va me donner l'évaluation. C'est Dieu qui viendra évaluer. Et la troisième chose, c'est décider de mettre au sérieux, le sérieux dans tout ce que nous faisons. Nous allons nous lever pour la prière. Bien-aimé le Seigneur, il a parlé, il t'a parlé d'une manière ou d'une autre. Là où tu te sens concerné, tu vas parler avec Dieu et dire, Seigneur, j'ai besoin de toi, aide-moi. Aide-moi à faire ce que tu me demandes de faire. Aide-moi à faire la mission là où tu m'as affecté à le faire comme si je le faisais pour toi. Aide-moi à vivre avec cette conscience. Élevons tous nos voix et prions. Seigneur, nous avons besoin de toi. Tu as parlé à nos cœurs, Seigneur. Atteins tes objectifs dans nos vies et répands ta grâce sur nous. Seigneur, tu nous connais et tu nous as confié cette mission et cette responsabilité. Tu nous as équipés pour ça. Aide-nous seulement à prendre conscience et à pouvoir le faire pour porter des bons résultats, pour produire des résultats escomptés que tu attends de nous. Nous avons besoin de toi. Bien-aimé, si tu es là ce matin et que tu veux rentrer dans les plans de Dieu pour ta vie, tu vas juste me suivre dans cette prière. Tu vas dire, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Seigneur, ce matin, je décide de rentrer dans ton plan. Accepte-moi. Aide-moi à comprendre la mission que tu m'as confiée et à les faire, à les réaliser, ou produire des résultats que tu attends de moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse.